Frères et sœurs, quand vous est-il arrivé pour la dernière fois de juger selon les apparences, ou bien de faire deux poids, deux mesures sur un même sujet uniquement à cause de l'apparence de la personne? Voilà la question que nous pouvons nous poser, quand bien même nous sommes adultes ou lorsque nous sommes plus jeunes et que nous venons de rentrer en classe comme les servants d'hôtel ou les servantes de l'assemblée, c'est une question que nous pouvons tous nous poser. Parce que si c'est une difficulté pour nous, ça l'était déjà au tout début de l'évangélisation. On l'entend dans la deuxième lecture de ce jour, dans l'épître de Saint Jacques, le chef de la première communauté de Jérusalem. Et il prend un exemple riche, pauvre, par rapport aux vêtements, mais on pourrait l'étendre à d'autres éléments. On pourrait l'étendre au parfum, on pourrait l'étendre à la taille, à la couleur de la peau, à l'accent, à la forme du nez. Notre jugement, nous nous rendons compte, est parfois différent sur ce seul motif de l'apparence. Et la lettre vient nous dire que c'est un raisonnement faux, erroné, mauvais, parce que dans l'exemple que prend Saint Jacques, le pauvre a été élu par le Christ qui s'est fait pauvre lui-même. Il l'a fait riche de la foi, il l'a fait hériter du royaume de ceux qui l'auront aimé, lui Jésus. Et donc, nous risquons, en nous fixant sur l'apparence, d'oublier, de ne pas voir une richesse qui est là, richesse de la foi, richesse de fécondité dans l'amitié avec le Seigneur, une fécondité pour l'éternité. Bon. Alors d'accord, on l'a entendu, et généralement quand on l'entend, on est plutôt d'accord. C'est vrai, ne jugeons pas selon les apparences. Le problème, c'est qu'il ne suffit pas de le dire pour le faire. Il ne suffit pas de le dire pour le vivre. Et d'une certaine manière, même j'ai parfois envie de dire, je ne peux pas m'en empêcher. J'ai forcément une première opinion. J'ai forcément une première appréciation, une première évaluation. Et on pourrait dire, mais ça fait même partie des règles de prudence. Voilà, j'arrive devant un plan d'eau, et il me semble que l'eau a l'air profonde. Ben, je me méfie si je ne sais pas bien nager. Cette première impression, c'est de la prudence. Je suis dans ma cuisine, je vois la plaque électrique qui rougeoie. Elle doit être chaude. Je me méfie, c'est de la prudence. Mon professeur qui ne m'aimait pas portait tel parfum. Ben, quand je sens encore ce parfum, j'ai des souvenirs désagréables, donc je ne suis pas très à l'aise. Voilà, je n'y peux rien, ça s'impose quasiment à moi. En fait, il faut bien comprendre que l'enjeu n'est pas de ne plus avoir de première opinion, mais l'enjeu, c'est de ne plus être soumis à la tyrannie de cette première appréciation. Il ne s'agit pas de perdre toute spontanéité, mais il s'agit de ne plus être soumis à la tyrannie de la spontanéité. Parce qu'une spontanéité qui n'a pas de recul, une spontanéité qui ne sait pas se remettre en question, peut être profondément injuste. Je voudrais évoquer le souvenir d'un cas pas très très grave, mais d'un petit enfant qui devait avoir 5 ans ou 6 ans, qui, lors d'un repas avec plein de monde, s'approche d'une centenaire et lui dit « T'as l'air d'une vieille sorcière. » Alors ça a jeté un blanc devant tout le monde, quand même. Surtout qu'ensuite, il est allé chercher son livre de contes pour montrer pourquoi il disait ça. Voilà, parce qu'elle ressemblait à l'image. Alors, la spontanéité, un cas pas très grave, mais on voit bien qu'il y a quelque chose d'inapproprié. Alors il y a donc une éducation de notre jugement. Il y a une éducation de notre perception des autres, au-delà de la spontanéité, et qui ne peut se faire que par une certaine contrainte, par une maîtrise de soi, par une loi, dirait-on autrefois. Et pour bien le comprendre, d'ailleurs, Saint Jacques parle un peu plus loin dans son épître d'une loi de liberté. Qu'est-ce que ça veut dire? Une loi qui rend libre. Comprenons, qu'est-ce que c'est une loi qui rend libre? Souvenons-nous de la contrainte imposée aux petits enfants pour qu'ils deviennent propres. Allez. Jeunes parents pourront en parler, ou la contrainte imposée à l'enfant pour qu'il apprenne à parler et ne se contente pas simplement de désigner les choses dont il a besoin. Voilà, parce qu'avec le doigt, on peut montrer plein de choses. Oui, mais il faut le contraindre à la parole, pour qu'il puisse développer ce dont il est capable. À la fois, c'est une vraie contrainte qu'on lui impose parce qu'il a envie maintenant, mais il va apprendre à se retenir, ce qui n'était pas spontané. Il se trouve que cette contrainte imposée, désagréable au départ, qui nous a fait pleurer, contre laquelle on a résisté, nous confère aujourd'hui une véritable aisance par ce contrôle sur nous-mêmes. Oui, nous avons acquis quelque chose qui n'était pas spontané, mais qui était pourtant naturel, quelque chose qui était dans nos capacités, quelque chose qui était dans le potentiel de nos capacités. Pour acquérir ce regard, pour acquérir ce jugement maîtrisé, qui ne se laisse pas enfermer par l'apparence, il me faut passer par une certaine contrainte, par un joug, par un exercice qui est difficile. Il me faut accepter d'entrer dans cette loi de liberté, dans cette loi pour être libre. Libre de quoi, en fait ? Eh bien, libre de percevoir en celui avec qui, de façon extérieure, je n'avais pas forcément d'atome crochu, mais de voir en lui le prochain que le Seigneur me donne, un autre moi-même, un élu du Christ, une personne pour laquelle Jésus a donné sa vie. Parce que, au-delà de la première impression que la personne continuera à me faire, il y a une réalité, hein, si vous êtes face à quelqu'un qui sent un peu mauvais ce jour-là pour telle ou telle circonstance, ben, il va continuer à sentir mauvais, même si je le regarde comme mon prochain. Je ne perdrai pas mes appréciations premières, mais je n'en serai plus esclave. Alors je vous invite à un petit exercice. J'allais dire, nous faire notre propre gendarme et examinateur pour grandir dans cette appréciation de l'autre en maîtrisant notre première réaction. Alors quel est cet exercice ? Alors c'est un exercice d'ailleurs, un peu de suspense, qui prend sa place tout à fait particulièrement dans un temps de rentrée où nous rencontrons du coup pas mal de nouvelles personnes, il y a de nouveaux rapports qui sont appelés à se mettre en place. Eh bien, choisir une personne cette semaine que je ne vais pas fuir, peut-être que à son apparence j'avais quelques réticences, mais je fais le choix de ne pas la fuir. Au motif qu'il est mon prochain puisqu'il est là, au motif qu'il est image de Dieu par sa création, ne pas être effrayé par son apparence. Et c'est une chose que nous pouvons vivre dès la sortie de la messe, hein. Il ne faut pas attendre, attendre et attendre. Les gens que nous rencontrons, nous savons que dans cette paroisse, nous avons cette habitude à la sortie de la messe de saluer deux personnes que nous ne connaissons pas avant de saluer une personne que nous connaissons. Eh bien, c'est le lieu de vivre cet exercice. Mais parfois, on pourrait se dire, mais c'est quand même pas facile. Eh bien, providentiellement, nous avons entendu dans l'évangile de ce jour qui nous était donné, le Christ qui disait cette Ephphatha, ouvre-toi, Ephphatha, ouvre-toi, et qui allait ouvrir les oreilles d'un sourd, qui allait délier la langue d'un muet. Eh bien, c'est providentiel parce que, oui, peut-être que dans la rencontre de celui qui est nouveau, de celui face à qui je ne trouve pas mes atomes crochus, je me sens comme muet, je me sens comme sourd. Mais si cet évangile nous est donné aujourd'hui, c'est que le Seigneur, justement, veut faire ce qu'il fit autrefois pour cet homme. Ephphatha, ouvre-toi. Et donc, dans cette Eucharistie, peut-être sommes-nous appelés à porter tout particulièrement cette demande. Seigneur, toi qui t'es révélé le Dieu qui ouvre les oreilles du sourd et qui délie la bouche du muet, viens ouvrir ma bouche, mes oreilles, mon cœur, que je puisse saluer le frère nouveau que tu me donnes. Saint Jacques, toi que l'on appelait frère du Seigneur, tu nous enseignes que nous ne pouvons nous satisfaire de ce jugement de premier abord. Tu nous enseignes que nous ne pouvons nous résigner à son emprise. Intercède pour nous auprès du Seigneur, pour que nous nous engagions sur ce chemin, acceptant cet exercice, acceptant ce joug pour être libre, libre de reconnaître l'image de Dieu dans le prochain. Intercède pour nous, Saint Jacques. Donne-nous de vivre cette Ephphata dont tu as été le témoin. Amen.